Radio Okapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Nouvelle à la une en ce midi, c'est tout d'abord ce plaidoyer des femmes de l'Ituri, victimes directes des conflits armés dans cette province. Elles réclament justice et réparation après toutes les atrocités subies. Actualité électorale dans ce journal. Nous nous focalisons ce jour sur le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs dans quelques territoires du Nord Kivu. Quelques difficultés relevées ça et là dans les Massissi ou Alikale. En suivant ce journal, vous en saurez plus. Notre invité est ancien responsable de la commission électorale indépendante dans la Grande Orientale, Jean Otemi Kongo Mandefu, relève quelques innovations dans la nouvelle loi électorale et la nécessité pour chaque citoyen de s'enrôler. Sous peu, nous vous déroulons les autres aspects de l'actualité de ce journal. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Les femmes de l'Ituri, principales victimes des conflits armés, demandent justice et réparation pour les divers crimes qu'elles disent avoir subis. Elles ont lancé ce plaidoyer lors des rencontres avec la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les droits de l'homme en visite à Bunia. Elles demandent l'implication de cette haute personnalité de l'ONU pour que les présumés auteurs de ces actes soient identifiés et poursuivis. Pour en parler, Martial Kizabiamungu.
5 ans déjà que l'Ituri est plongée dans les violences de groupes armés, principalement dans les territoires de Djougou, Iromou et une partie de Bahagui. La plupart des victimes sont des enfants et surtout les femmes tuées, violées ou enlevées et transformées en esclaves sexuels par les ravisseurs. Celles qui survivent à ces violences sont traumatisées et en garde d'importantes séquelles psychologiques. Selon Marie Kebazaire, coordonnatrice de l'ONG Promotion pour la Femme pour la reconstruction de l'Ituri, il faut une intervention urgente.
Il a fallu qu'on ait la réparation. Mais s'il n'y a pas la réparation, je crois que la population doit rester dans sa détresse.
Nous n'attendons que notre intimité, longtemps bafouée, soit rétablie, estime pour sa part Marthe Dévé, vice-présidente du collectif des femmes de l'Ituri. Selon elle, de nombreuses femmes ont été mutilées et leurs bourreaux ne sont pas inquiétés.
Notre être intime qui a été bafoué puisse être rétabli. Qu'il y ait des réparations pour les mutilés. À cause des souffrances, on est vraiment traumatisé.
Touchée par cette situation, la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les droits de l'homme, Brent Keris, espère une intervention d'urgence pour toute femme victime dont elle a salué le courage. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu, à présent, des violents combats sont signalés depuis tôt ce lundi en territoire du Massissi sur l'axe Kichanga-Mweso. Selon nos sources, ces combats se dérouleraient à Dondo et Kayakiahemba, tout près de Kichanga, sémant la panique dans la partie Murongozi en direction de Mweso, où la population serait en train de fuir en masse ce matin. D'après plusieurs sources, c'est le M23 qui aurait lancé ses attaques sur les positions des FRDC et ses forces d'autodéfense. Cependant, une accalmie s'observe ce lundi matin sur l'axe Sake-Kiroliroué, tout comme dans le Rutshuru. Le point de la situation avec vous, Blaise Shindani.
Des informations recueillies ce matin auprès des différentes sources indiquent que ces combats à l'arme lourde ont provoqué une psychose sur tout l'axe, notamment à Kayemba, Bukombo, Bouchaluira et Murongozi, des villages situés entre Kichanga et Mweso. Des bombardements entendus depuis Ndondo provoquent des déplacements de la population dans tous les sens. Selon nos sources, ces affrontements se dirigeraient vers Mweso, 15 km de Kichanga. Pour rappel, les FRDC contrôlent la partie nord de Kichanga, à sa voir la ferme Rujugiro, située à 3 km de la cité jusqu'à Mweso. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, occupent la colline de Rusinga et Kitobo, 3 km côté ouest, mais aussi les collines de Mbu et Kae, côté est, dans la partie Bichusha. Les rebelles sont à Uli, Bwiza, Tongo, dans le Rutshuru, alors que du côté sud de Kichanga, ils sont à Nyakabingu, Burungu, Rushebeche, Ferme Espoir, Kiroliroué jusqu'à Kabati à 17 km de Sake en groupement Kamuronza. Les FRDC maintiennent un verrou à Makombo et Kingi sur les mêmes axes pour stopper toute avancée des rebelles vers Sake.
Sud Kivu, à présent, les déplacés de Bijombo dans les hauts plateaux d'Uvira demandent le renforcement du dispositif des FRDC pour leur sécurité. Ils se sont exprimés ainsi à l'occasion de la fermeture de la base de la MONUSCO de Bijombo samedi dernier. Ces déplacés disent craindre d'éventuelles attaques des groupes armés communautaires encore actifs dans la région. Emmanuel Elamejing Ndouakabedi revient de Bijombo, voici son reportage.
C'est près de 4000 personnes déplacées de Bijombo qui soulèvent cette préoccupation. Il y a 3 ans, ces personnes avaient fui les combats dans leur milieu pour trouver refuge à côté du camp des contingents pakistanais de la MONUSCO. Aujourd'hui que cette base est définitivement fermée, la peur s'installe. Monsieur Lite Mepe, déplacé.
La présence de la MONUSCO était très importante. Aujourd'hui que la MONUSCO vient de partir, la population en peur. Est-ce que l'FRDC en elle-même sera vraiment capable d'assurer leur sécurité? C'est ça la question qui se pose à la population de Bijombo.
La présence de la MONUSCO à Bijombo a amélioré la situation sécuritaire dans cette zone. Les déplacés ont même repris des travaux champêtres et d'élevage. Ndabiruba Routare, président de déplacés.
Pour cette année, la situation sécuritaire s'est quand même améliorée. Les déplacés ont cultivé et récolté sans problème et la faim a diminué. Et maintenant que la MONUSCO quitte, nous avons des inquiétudes parce que la MONUSCO protégeait les déplacés, mais notre inquiétude c'est de savoir si les FARDC seront capables à elles seules. C'est ça notre préoccupation en tant que déplacés de Bijombo.
Signalons que la MONUSCO a facilité le transport aérien de 4,5 tonnes de matériel de Vodacom dont le signal est maintenant opérationnel à Bijombo. De retour de Bijombo, Emmanuel Elamejo Akabedi, Radio Okapi.
Actualité électorale, dans le Nord Kivu, les opérations d'enrôlement des électeurs ont débuté timidement dans certaines zones des territoires, notamment dans le Massissi et Walikale, tandis que Rutshuru attendra que la situation sécuritaire se rétablisse. La société civile dans ces zones affirme avoir constaté du retard dans le déploiement des kits électoraux, ainsi que les personnels de la CENI, des problèmes techniques dans certains centres qui ont déjà ouvert, mais aussi des difficultés énormes d'accès à certaines zones, notamment de Walikale. Plus de détails avec ces
Pour ce qui est de Massissi, les opérations d'enrôlement se déroulent progressivement dans les endroits où les matériels électoraux ont été déployés. À ce lundi 20 février, c'est le cas sur l'axe Sake-Mubambiro-Buremana au sud du territoire. Une faible couverture due à la situation sécuritaire a reconnu les rapporteurs adjoints de la CENI. Côté Walikale, les opérations ont commencé dans les entités accessibles alors que sur les axes enclavés, la CENI a du mal à déployer ses matériels et agents. Presque la moitié des groupements 17 qui comptent ces territoires n'ont pas encore reçu le kit d'enrôlement, affirme Prince Kiangi, élu de Walikale. Selon lui, le matériel électoral devrait également être transporté à pied sur les axes alors qu'il se pose encore un problème de sécurité, mais aussi la prise en charge des personnes qui seraient volontaires pour le faire. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs va bon train à Kindu et à l'intérieur de la province où cette opération est lancée. Cette confirmation est du secrétaire exécutif provincial de la CENI Maniema, Émile Dimoké Tamboué. Quant à la sécurisation de cette opération, le président du comité de pilotage de la sécurisation du processus électoral invite la population à se faire enrôler massivement. Afani Idrissa Mangala l'a dit au micro de Florence Kizalunga.
La CENI n'est pas à s'inquiéter. En tant que président du comité de pilotage de la sécurisation du processus électoral, nous nous sommes engagés pour sécuriser le processus d'identification et d'enrôlement dans toute l'étendue de la province du Maniema. Donc la situation sécuritaire n'est pas totalement inquiétante, telle que on le dit partout, que le Maniema est invivable, le Maniema est dans une situation de non-état. Partout aussi du Maniema, on a lancé officiellement ce processus. C'est une étape importante que nous sommes obligés de sécuriser et faire de sorte qu'il y ait beaucoup d'enrôlés, parce que si une fois on s'enrôle massivement, le poids électoral de la province de Maniema va monter. Que toutes les mesures sécuritaires sont prises pour que la population aille s'enrôler sans beaucoup d'inquiétude.
Autre nouvelle, lancement hier dimanche 19 février à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu dans la division provinciale de l'EPST Kwilu 1 des épreuves préliminaires de l'examen d'État 2022-2023. Le go a été donné par le vice-gouverneur de province Félicien Kiwa Imwadi au centre du lycée Matondo en présence de plusieurs autorités scolaires dont l'inspecteur principal provincial. Dans ce mot, Jean-Expedimbo Makwaya, chef des services généraux de l'EPST Kwilu 1 qui a représenté le directeur provincial de la dite juridiction en mission, a indiqué que plus de 80 candidats autodidactes du Kwilu 1 ont passé ces épreuves. Ceux qui réussiront à ces épreuves seront éligibles à la hors section et à la session ordinaire prévue dans quelques mois au pays, a-t-il dit. On écoute Jean-Expédi Mboma Kwaya, chef de service généraux de l'EPST Kwilu 1, au micro de Irène Mboma.
Le calendrier scolaire de l'année 2022-2023, lequel est la première instruction par excellence, détermine les échéances des évaluations certificatives et prévoit pour la date de séjour la passation des épreuves préliminaires des candidats autodidactes en vue de leur classement définitif sur la liste des élèves finalistes admis aux examens d'État 2022-2023. Nous nous retrouvons en ce lieu. Comme vous le savez, ces épreuves concernent les candidats irréguliers désirant obtenir le diplôme d'État ou celui de l'aptitude professionnelle en dehors des écoles. Ils se chiffrent approximativement à 85 candidats pour les trois centres que compte la province éducationnelle de Kwilu 1. Il s'agit du centre de Bandundu, centre de Barata Cité et celui de Fatundu. À ces mots, je ne fais que souhaiter une fructueuse passation des épreuves à nos heureux candidats.
Nord Kivu, le colloque d'intervenants pour la démocratie, l'environnement et les droits de l'homme, CIDED, basé au sud du territoire de Lubero, plaide auprès de la MONUSCO pour la réalisation des projets clés de stabilisation de cette région qui regorge de nombreuses potentialités économiques et agricoles. Pour son secrétaire exécutif, ce serait des actions concrètes de la mise en œuvre du mécanisme de transition vers la sortie responsable de la mission onusienne après avoir stabilisé cette région qui a tant souffert des affres de la guerre. Joseph Malikido Komutsuva en énumère quelques-uns au micro de Marc Marofimbo.
Les priorités sont encore multiples dans la zone. Ses partenaires privilégiés, la MONUSCO, nous lui demandons de revenir pour d'autres projets. Je me rappelle, EPE AVA, la MONUSCO, a financé le projet de construction d'une salle d'encadrement de femmes à Kanyabayonga. Nous avons aussi un autre projet dans la zone pour la pisciculture qui pourra encadrer les démobilisés. Ce projet-là a un double impact à ce sens que non seulement il contribue à la sécurité alimentaire, au relèvement communautaire des bénéficiaires, mais aussi ce projet-là va contribuer à freiner, à réduire la pression humaine sur le lac Édouard avec tout ce qu'il y a comme pêche illicite. Ça va aussi contribuer à la réduction de la pauvreté. Ça va aussi réduire la couvoitise contre le parc national de Virunga. Il y a aussi au niveau des Kamandi une organisation très forte de femmes. Elles ont payé une grande parcelle. Elles ont même commencé à construire. Malheureusement, les efforts locaux étaient un peu réduits. Elles ne savent pas comment évoluer un projet que nous présentons à la MONUSCO.
Sachez que ce vendredi à Lubero, le chef de bureau adjoint de la MONUSCO, Abdourahmane Ganda, a rappelé que la MONUSCO était prête à réaliser des projets de stabilisation à condition que cessent les violences qui empêchent ses équipes de se mouvoir dans certaines parties de la zone.
Actualité internationale.
Le Burkina Faso a annoncé dimanche la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. L'état-major burkinabé a déclaré qu'une cérémonie solennelle de descente des drapeaux a été organisée avec le commandement de la force française Sabre au Burkina. L'événement qui s'est déroulé dans l'enceinte du camp Bilazagré, en périphérie de Ouagadougou, la capitale, est intervenu quelques semaines après la dénonciation par le gouvernement de transition des accords de défense liant les deux pays. L'Union africaine a déclaré que le statut d'observateur d'Israël au sein de l'organisation avait été suspendu et que le pays n'avait donc pas été invité à son sommet du week-end. Le chef de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, s'est exprimé dimanche, soit un jour après que la délégation israélienne ait été expulsée de la cérémonie d'ouverture du sommet à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. L'année dernière, nous avons débattu sur la question du statut d'Israël comme observateur dans l'Union africaine. Suite à ces différentes discussions, la conférence a décidé de mettre en place un comité ad hoc des chefs d'État sur la question, ce qui veut dire que le statut est suspendu jusqu'à ce que ce comité puisse délibérer. Et donc, nous n'avons pas invité des officiels israéliens à notre sommet, a-t-il déclaré.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, l'ONG Média pour la paix s'implique dans la sensibilisation des parties prenantes au processus électoral afin de combler le déficit communicationnel par rapport au processus y afférent. C'est dans ce cadre qu'il a organisé vendredi dernier au centre de la pastorale une table ronde sur les innovations de la loi électorale et l'importance de l'enrôlement des électeurs. Cette activité a été appuyée par IREI et Internews. Pour en parler, nous recevons professeur Jean Otekimongo Mandefo, président honoraire de la commission électorale indépendante CI dans la province orientale. Il est aussi expert en questions électorales. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Professeur Jean Otemikongo Mandefou, bonjour.
Bonjour.
Les innovations de la loi électorale et l'importance de l'enrôlement des électeurs, est-ce que le moment est opportun pour en parler?
Le moment est opportun. Après la cartographie électorale et le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement de l'électeur, le quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo est en marche. C'est le moment idéal pour sensibiliser les partenaires, à savoir les partis politiques, la société civile, l'administration électorale, sur les innovations introduites par la loi électorale du 9 mars 2006, telle que modifiée par celle numéro 29 du 29 juin 2022.
Quelles sont ces principales innovations, professeur?
Parmi les innovations phares de cette loi électorale figure très justement la notion un peu nouvelle des seuils de recevabilité et des seuils de représentativité. Une fois ces notions ne sont pas bien comprises, peuvent donner lieu à des malentendus et à des mésinterprétations.
Alors, comment pouvons-nous comprendre ces deux notions, ceux de représentativité et ceux de recevabilité?
D'abord, parmi ces deux notions, c'est la notion de seuil de recevabilité qui vient avant celle de seuil de représentativité. Le seuil de recevabilité désigne tout simplement les pourcentages, les nombres de candidatures qu'une liste d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques doit atteindre pour qu'elle soit jugée recevable par la commission électorale indépendante avant de participer à la suite du processus électoral, c'est-à-dire battre campagne et puis compétir et participer à la répartition des sièges.
Et qu'en est-il du seuil de représentativité?
Le seuil de représentativité intervient après le vote. Signifie tout simplement le nombre de suffrages, le nombre de voix qu'un parti politique ou un regroupement de partis politiques doit atteindre pour être admis à la répartition des sièges au niveau de la circonscription. Conformément à la loi, le seuil de recevabilité est fixé à 60% pour les scrutins suivants. La députation nationale, la députation provinciale, l'élection municipale et l'élection locale. Ce seuil ne va pas s'appliquer à l'élection présidentielle, au scrutin indirect et aux candidats indépendants. Par contre, le seuil de représentativité est également fixé par la loi. Il est de 1% de suffrages valablement obtenus par chaque liste de partis politiques ou de regroupements politiques au niveau national. Il est de 3% de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque parti politique ou regroupement au niveau de la province et il est de 10% de suffrages valablement exprimés que chaque parti ou regroupement politique doit atteindre pour l'élection municipale ou communale, l'élection locale.
Alors, professeur, quelle est l'importance de se faire enrôler?
L'inscription et l'enrôlement des électeurs sont des opérations très importantes, puisque c'est à l'issue de cette opération que la commission électorale indépendante va élaborer ce qu'on appelle la liste électorale et va aussi déterminer le nombre d'électeurs, le nombre de citoyens qui ont rempli des conditions fixées par la loi pour voter. Et à l'issue de cette opération, la commission électorale va délivrer des cartes d'électeurs. Et celles-ci, cartes d'électeurs, vont servir à la fois comme un document important pour remplir son droit de vote, mais aussi comme carte d'identité, en attendant celle que l'Office national d'identification va nous établir. Ça, c'est la première importance. Deuxième importance, la répartition des sièges dépend du poids, dépend du nombre d'électeurs par circonscription. Si une entité ou une circonscription donnée a beaucoup d'électeurs, elle a aussi des chances d'avoir un grand nombre de représentants au niveau soit du Parlement, soit au niveau de l'Assemblée provinciale, soit au niveau des assemblées locales.
Professeur Jean Otemikongo Mandefou, merci.
Nous vous remercions.
Auditeurs à l'écoute, nous vous disons aussi merci d'avoir commencé avec nous cette matinée d'information qui prend fin fin en ce moment. Ce journal, avec ce journal qui vous a été préparé par Élisée Chikota et l'ensemble de toute la rédaction, Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Polydor Basunga assurait la prise des sons et la mise en onde. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons une fois de plus merci.